Migration des Français en Amérique du Sud. Première partie, Pigway.
Épilogue.
Cantecusterum, los esclops.
La fin des années 1800 fut bien dure en Europe et une grande partie de la population se vit face à un dilemme crucial. Rester et se faire prendre par la pauvreté, voire la famine. Partir et tenter le sort ailleurs.
Partir, mais vers où ?
Des horizons nouveaux s'ouvraient ailleurs, notamment en Amérique. Notre histoire se passe justement dans un de ces Édens, entrevus dans le monde de l'époque. L'Argentine, en Amérique du Sud, dont les gouvernements ouvraient les portes aux étrangers, dans une vaste campagne d'immigration sélective. Deux hommes sont à l'origine de notre épopée.
Clément Cabanet, né en 1851 à Ambec, en Aveyron.
Et
François Issali, né en 1852 à Poudance, également en Aveyron.
Au fort de leur jeunesse, ils migrèrent en Argentine, à peu près au même temps.
Clément Cabanet, en novembre de l'année 1879, à l'âge de 28 ans.
Et
François Issali, un an après, en octobre 1880, également à l'âge de 28 ans, il était d'un an plus jeune que Clément Cabanet.
Enchanté par la perspective d'une vie meilleure et plus digne dans ces pays naissants, les deux hommes décidèrent de convaincre familles et amis à y venir s'installer. Clément Cabanet et François Issali firent connaissance à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, et éprouvèrent une sympathie et une confiance réciproques dès leur première rencontre. Motivés par ces sentiments, ils se livrèrent mutuellement leur souhait de convaincre leur entourage à traverser l'océan et venir chercher en Argentine une vie meilleure. D'ailleurs, Clément Cabanet envisageait plus grand. Il projetait une colonie agricole aveyronnaise en Argentine. Pour cela, il avait déjà même obtenu la promesse de terres de la part du gouvernement de la province de Buenos Aires.
A las donosas de la ciudad, guarnicita del campo, para tus tales te quiero dar.
Conquis par l'idée, François Issali lui consacra dès lors son temps et son énergie. Il se donna avec enthousiasme à la tâche de recruter en l'Aveyron les candidats à la dite colonie. du 1er juin 1882, date de leur rencontre à l'Union téléphonique de Buenos Aires, au 30 novembre 1884, date d'arrivée de François Issali en Argentine, accompagné des Aveyronnais, candidats à peupler la colonie projetée par Clément Cabanet, les deux hommes ouvrirent ensemble malgré les difficultés de communication. Clément Cabanet s'occupait en Argentine des démarches administratives et de l'implantation de la base de la colonie. François Issali, en France, s'occupait de la diffusion de projets et sillonnait l'Aveyron recrutant des candidats. Maintes mésaventures, maintes difficultés pointèrent sur leur chemin, mais les deux hommes avaient la trempe des pionniers, la force des entrepreneurs et la foi des rêveurs. Nourris des rêves et d'espoir, Clément Cabanet, François Issali et plus d'une centaine d'Aveyronnais ont marché sur les terres de Pigoué, en ces débuts du mois de décembre de l'année 1884, comme si leurs pieds touchaient la terre promise.
C'est à Pigoué.
Le 14 août 1885, que Clément Cabanet fêta ses 34 ans avec la communauté aveyronnaise. Surpris par l'arrivée des colons aveyronnais chez lui, que venaient lui rendre leur hommage et lui signifier leur affection, Clément Cabanet leur exhorta à
avoir confiance dans l'avenir
et les incita à l'union.
Vous êtes tous des amis, aimez-vous comme des frères, secourez-vous mutuellement et soutenez-vous car, loin de la mère patrie, la solidarité s'impose pour réussir.
Le lendemain, 15 août, jour de fête en France, l'espoir argentin et la nostalgie de la terre-mère se représentèrent par la présence des deux drapeaux sur la porte de la maison de Clément Cabanet, celui de l'Argentine et celui de la France. L'Aveyronnais natal se fit présent dans tous les esprits. La messe, le banquet et ensuite le bal animé par les sons et rythmes des bourrées. Et pour clore, un feu d'artifice dont les éclats, les lumières et les bruits emportèrent tout pendant un laps de temps, un monde de joie, de féerie, de bonheur.
En 1885,
la première école de Pigoué ouvrit ses portes à 28 élèves de 6 à 13 ans, 18 filles et 10 garçons, répartis en deux niveaux.
C'est à Pigoué,
le 20 février 1886, que François Issali célébra son mariage avec Marie-Rose Léonie Vialar. Pigoué manquait de médecins. Clément Cabanet avait envisagé d'en engager un, mais les frais étant trop importants, le projet fut abandonné. Au courant de l'année 1886, Édouard de Cazet facilita l'installation d'un médecin à qui il versait une mensualité pour proférer des soins médicaux aux familles des colons. L'Éden dévoila l'enfer qu'il cachait. La nature montra ses caprices. Sécheresse, grêle, le terrible vent du sud, les animaux prédateurs. Les plantations souffrirent. Les récoltes furent nulles pour certains, minimes pour d'autres. Sans récolte à vendre, les colons manquèrent à leur engagement à l'égard de Clément Cabanet. Et celui-ci se trouva sans les moyens de payer son dû à Édouard Cazet. Ce fut ainsi que Clément Cabanet se vit obligé de résilier son contrat avec Édouard Cazet et la propriété des terres revint à Cazet et à sa société Kurumalan. Ces terres étaient pré-hypothéquées, détail que Édouard Cazet et son notaire avait soigneusement caché à Clément Cabanet au moment de la vente. Avec ce retour de situation, les colons se virent face à des nouvelles conditions extrêmement dures et l'insécurité plana sur tout. François Sali raconta dans son journal.
Nous, les colons, tous sans exception, dûmes nous résigner à considérer pour nul le contrat de donation de terrain avec titre provisoire qui nous avait été remis par M. Cabanet.
Les colons se virent entièrement démunis face à Édouard Cazet, qui se réserva les droits de résilier les contrats à son gré. Écoutons François Sali parler du contrat signé avec Édouard Cazet.
Ce contrat nous exposait, en cas de manque d'accomplissement pour un fait quelconque, à perdre tous nos droits et, durant son accomplissement, à devoir tous, sans exception, nous résigner à être ici, dans ce pays étranger, administré par des Anglais au lieu de l'être par un Français.
Loin de la patrie, face à l'infranchissable, quel fut le sort des colons qui n'honorèrent pas leurs nouveaux engagements auprès d'Édouard Cazet? François Sali exprima son indignation profonde face à l'attitude du nouvel administrateur et du nouveau directeur de la colonie, tous deux nommés par Édouard Cazet.
Ceux qui ne purent pas remplir les conditions furent immédiatement expulsés. Leur temps et leur travail furent perdus. Ils furent expulsés des lots qu'ils possédaient par la violence et la force armée. Pour faire sortir la famille Tamalet et la famille Ossel, ils ne se contentèrent pas d'entrer avec violence dans le domicile pour les attacher comme des criminels, mais ils allèrent jusqu'à les maltraiter, prendre leurs animaux et leur matériel agricole, sortir tout ce qu'ils avaient dans leur maison et la démolir pour les empêcher d'y revenir.
Inutile d'aller plus loin. Ceci suffit pour nous faire comprendre l'intensité du malheur qui s'effondra sur la colonie. De plus, la colonie aveyronnaise agricole de Pigouet devint tout simplement Colonia Pigüé. Quel coup de poignard pour ces deux pionniers qui rêvèrent d'un paradis pour eux, leurs familles, leurs amis et leurs compatriotes. Émile Cabanette et Pierre Gombert sont plus tendres quand ils se réfèrent à cet événement. Peut-être que le fait de ne pas l'avoir vécu neutralise la rage et la colère. Peut-être que le regard a posteriori permet de le situer dans un temps plus large et dans un contexte plus ample. Lisons-les.
Malgré ces nouvelles et sévères conditions, nos Aveyronnais redoublent de courage pour conserver les bénéfices d'une situation jugée exceptionnellement avantageuse, en dépit des revers momentanés. On change aussi de méthodes agricoles et on abandonne les techniques rudimentaires du pays natal. Et, miracle, véritable nom de Dieu, à cette terre promise, les saisons deviennent de plus en plus favorables. S'ouvre dès lors, grâce à l'extrême fertilité de ces terres vierges, une ère de prospérité que rien ne semble devoir contrarier. Très vite, la cour aux Malanes et Édouard Cazet sont désintéressés. On respire. On avait eu cependant très chaud.
Devinrent Clément Cabanette et François Issali. L'échec ne les neutralisa pas. Les deux hommes continuèrent à s'occuper des habitants de Pigüé. Clément Cabanette et son frère Sylvain furent dépossédés de la moitié de leurs terres. Et Clément Cabanette se vit obligé de vendre sa part pour payer ses dettes. Il ne lâcha pourtant pas les habitants de la colonie et continua à œuvrer pour leur bien-être. Il organisa en 1886 des élections pour désigner une sorte de conseil municipal. En 1891, il fut nommé agent consulaire de France à Pigüé, poste qu'il occupa pendant 7 ans. Il fonda la première coopérative agricole du pays. Il fut nommé membre honoraire de la Société de secours mutuel des Pigüé, la Fraternelle. Il eut d'autres titres honoraires, preuve de la reconnaissance de ses compatriotes et des autorités argentines. Professionnellement, les choses ne furent pas très égales. Bien que toujours débordant d'idées, il passa d'une fonction à autre sans s'y fixer et finit par perdre ses biens. Le 4 décembre 1909, il fit sa dernière apparition publique lors de la commémoration de 25 ans de Pigüé. Conforté par les hommages reçus, il se retira dans une propriété qu'elle avait louée et, affaibli par un cancer, il ferma définitivement ses yeux le 14 juillet 1910, quelques mois avant de fêter ses 59 ans. Belle date pour les décès d'un grand homme de nationalité française.
Et François Issali ?
Laissons la parole à François Issali.
De bien grandes menaces et de bien grands desseins furent tourdis pour me faire sortir, moi aussi. Mais malgré toutes les peines et toutes les difficultés que j'eus à vaincre pendant plusieurs années, ayant pu remplir les conditions du contrat et ayant pu payer toutes mes dettes, il me fut possible de conserver ma propriété et en août 1892 d'en obtenir le titre définitif et légal.
En 1924, à l'âge de 72 ans, il réunit les documents soigneusement rangés au long de toutes ces années, dont une partie de sa correspondance avec Clément Cabanette. Des lettres administratives et ses propres registres et notes prises au long de sa vie. Ce fut ainsi qu'il écrivit en français et en espagnol l'œuvre qu'il intitula « Histoire de la Fondation française de Piguet », œuvre de laquelle nous vous avons livré quelques extraits de notre saga sur Piguet. Il vécut jusqu'à l'âge de 82 ans.
Como el pajarito quisiera trinar, como el pajarito quisiera volar, como el pajarito que eleva sus alas a la inmensidad. Como el pajarito quisiera trinar, andar por los aires, andar y volar, como el pajarito que de rama en rama se pone a cantar. Quiero libertarme de esta esclavitud, vivo prisionera con mi juventud, quiero libertarme.
Notre histoire aurait pu être un conte de fées, à un détail près. Par ironie du destin, un de nos princes charmants, Clément Cabanette, est décédé dans la ruine, la misère, à l'orée de ses 60 ans. Sa deuxième épouse et ses deux enfants décédèrent également dans le dénouement total. Heureusement, l'autre prince charmant, François et Sally, eut vie longue, beaucoup d'enfants et des petits-enfants. C'est grâce à un de ses petits-enfants, Eva Olga Pérez y Sally, je le dirai avec un accent espagnol, Eva Olga Pérez y Sally, que son livre est arrivé jusqu'en France. Quant aux méchants, ils finirent comme dans les histoires qui ont bercé notre enfance. Édouard Cazé mourit dans la misère totale. D'ailleurs, François et Sally dit qu'il s'est suicidé en se jetant sans un train. Il lit cependant quelques actes et gestes qui firent que son nom apparaît auprès de Clément Cabanette parmi les bienfaiteurs des Piguet. L'administrateur, auquel il avait donné plein pouvoir pour administrer Piguet, a fini sa vie dans un asile pour aliénés mentaux.
Et la princesse Piguet?
Apparemment, elle s'y porte bien du haut de ses plus de 130 ans. Une ville moyennement peuplée, elle compte actuellement avec plus de 13 000 habitants. De colonie aveyronnaise, elle devint rapidement une ville cosmopolite avec l'arrivée des colons de toute l'Europe. Elle garde encore des empreintes fortes de l'immigration française, Rouergate, Languedocienne. On y trouve par exemple la rue de Rodez. La langue française est toujours enseignée dans les établissements scolaires. Il y a même des habitants qui parlent encore l'occitan. Je te trouve bien silencieuse, bien songeuse. Notre histoire t'a-t-elle plu?
Oui, énormément, même si elle ne finit pas si bien que ça.
Musique.
avons fini notre épopée sur la création de Pigüé, colonie aveyronnaise en Argentine. Je vous incite à lire les œuvres que nous avons citées au cours de ces émissions, car nous fûmes contraints par le temps à sauter des faits importants. Voici la liste.
De l'Aveyron à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier, chronique de la fondation de la colonie française aveyronnaise de Pigüé, d'après le manuscrit de François Issali, 1924, adaptation de Nadine Coste.
Pigüé, ces Français devenus gauches, d'Émile Cabanette et Pierre Gombert.
Les Aveyronnais dans la Pampa, œuvre de la Fondation Développement et Vie de la colonie aveyronnaise de Pigüé, Argentine. 1884-1892, une édition de 1993.
L'animation musicale de l'émission d'aujourd'hui fut en grande partie assurée par quatre membres du groupe Los Musicais de Isidro Castel de Sévérac d'Aveyron. Daniel Lambec à la cabrette et à l'harmonica, Patrick Castan à l'accordéon diatonique et à la flûte, Alain Vaquier à l'accordéon chromatique.
L'enregistrement fut assuré par Michel Molinier.
Qui ont joué spécialement pour cette émission. Merveilleux, n'est-ce pas? Chez la mère Antoine.
Chasse la mère Antoine.
Et Lou Rossignol étaient des musiques probablement connues et peut-être même jouées par les Aveyronnais partis à Pigüé.
La musique.
Criolita Santiagueña.
Appelée également Morena de Mis Pagos ou la Morenita Linda
est une musique du folklore argentin répertoriée par les musiciens et chercheurs argentins Andrés Chazarreta, qui a vécu de 1816 à 1960. Certains documents affirment aussi la paternité du compositeur-interprète Atahualpa Yupanqui.
La musique Como el Pajarito
est une composition de Rodolfo Scamarella, pianiste et compositeur argentin, malgré son nom de famille italien. Né et décédé à Buenos Aires, il a vécu de 1902 à 1973. J'ai choisi l'interprétation de Libertad Lamarque, car elle était la chanteuse argentine préférée de ma mère. Libertad Lamarque est née à Rosario, en Argentine, en 1908. Elle est décédée à Mexico en 2000. Fait notable, elle avait des origines françaises.
Et pour finaliser la dernière musique, l'accordéon argentin?
Oui, j'ai choisi Raúl Barbosa. Non seulement parce qu'il est très connu, mais parce qu'il a passé quelques mois de sa vie à Porto Alegre, au sud du Brésil. Il y retourne souvent et maintient des rapports professionnels et amicaux avec les musiciens et accordéonistes gauchos du Brésil. Raúl Barbosa est né à Buenos Aires en 1938. Dans ses veines coule le sang des Indiens guaranis. Raison de plus de mon choix.
Vous venez d'écouter Migration française vers l'Amérique du Sud.
Première partie, Pigüé, l'histoire des Aveyronnais devenus gauchos.
Racontée par Rita, une gauche devenue aveyronnaise.
Une émission enregistrée au studio de Radio Larzac avec un texte de Rita.
Régie et montage Marie et les voix de
Marie,
Jean,
Nicolas
et Rita. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui ont collaboré dans nos recherches musicales depuis la première émission de cette série. Merci à Daniel Lambec, à Patrick Astan, à Alain Vaquier et à Michel Molinier, membre du groupe Les Musicaides del Castel de Sévérac d'Aveyron. Merci à vos auditeurs.
Canterun, canterun, biels, canterun, 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 biels, canterun, 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 biels, canterun, 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 biels.